Club de la presse, une émission produite en synergie par 3 médias, la radio publique africaine, la radio Indamba et la radio-télévision Renaissance.
Le Club de la presse offre aux professionnels des médias et aux invités un espace de débat et d'analyse des nouvelles nationales et régionales.
Cette émission est aussi un cadre d'expression à l'autocritique et à une analyse sans complaisance du travail des journalistes burundais.
Retrouvez le Club de la presse tous les vendredis sur le www.rpa.bi ou sur le www.nzamba.org et sur la page YouTube de la télévision Renaissance.
Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui nous prenons l'air dans le sens propre du terme pour cette édition du Club de la presse, tant il faut dire que le sujet d'aujourd'hui est loin d'être anodin. Pierre Nkurunziza est mort, le président burundais est décédé le 9 juin dernier. Officiellement, il a été emporté par un arrêt cardiaque, mais peu semblent croire à cette raison avancée par le gouvernement et pensent plutôt au Covid-19. Virus dont il niait l'existence jusqu'à se moquer des pays confinés. Beaucoup voient dans le communiqué du gouvernement, annonçant son décès, une volonté manifeste de continuer le déni de la pandémie et craignent des risques de ravages de la population par le coronavirus. Avant que Nkurunziza ne meure, son état de santé a suscité rumeurs et spéculations sur les réseaux sociaux et, bien sûr, dans la rue, au moment où ni le gouvernement ni la présidence ne voulait rien communiquer sur le sujet. Pour quel intérêt le pouvoir se comporte de la sorte? Avec quelles conséquences? Quelles leçons tirées de la disparition de Pierre Nkurunziza? Voilà les questions et bien d'autres autour desquelles vont échanger nos invités. D'abord, Innocent Mohosi, directeur de la télévision Renaissance, bonjour.
Bonjour Franck.
Nous sommes également avec Emmanuel Ndeimana, porte-parole de la plateforme de l'opposition.
Pas porte-parole. Chargé de la communication.
Chargé de la communication. Merci pour cette rectification de la plateforme de l'opposition.
Le porte-parole en est un autre, Jérémy.
Ah d'accord. Merci beaucoup. Et donc, nous sommes avec vous, je le répète comme vous le disiez, donc le chargé de la communication de la plateforme de l'opposition, Séphora Rouchard. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à tous les deux.
Merci.
Bonjour.
À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue. Innocent Mohosi, les médias en exil, dont la télévision Renaissance, ont été parmi les tout premiers à annoncer l'hospitalisation de Pierre Nkurunziza au moment où les plus proches même de Nkurunziza parlaient de rumeurs de la rue. Tout le monde se demande comment vous avez su avant tout le monde, avant les autres.
Ben, notre métier, c'est de chercher l'information, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Dans ce cas, comme dans d'autres cas, on cherche à obtenir l'information sur une question qui intéresse les Burundais ou l'ensemble de l'opinion. Donc, ce n'est pas différent de toutes les autres situations de recherche d'information.
Sauf que les médias en exil ne sont pas les seuls médias au monde.
Ce n'est certainement pas les seuls en exil, mais...
Par rapport à ceux qui sont... À ceux qui sont au Burundi, qui auraient pu avoir l'information beaucoup plus tôt.
La différence fondamentale, c'est qu'on travaille dans une certaine liberté de presse réelle et que ceux qui sont au pays sont soumis à une tyrannie qui leur impose de ne parler que de choses qui sont autorisées par le pouvoir.
Sauf que c'est une information tellement délicate que la question serait de savoir, mais comment ça se fait-il qu'ils aient pu accéder à cette information si caché.
Mais tous les jours, on accède à des informations cachées. Mmh. Tous les jours.
Mmh. Et donc vous avez un réseau d'informations qui vous permet d'accéder même à l'information la plus
Non, mais
délicate.
On ne peut pas faire son métier si on n'a pas de source d'informations. C'est aussi simple que ça, Franck. Il n'y a rien de particulier en termes de recherche d'informations et d'accès à l'information, c'est tout. Mmh. On a des grosses difficultés, évidemment, parce qu'on est en exil et qu'on a du mal à accéder à certaines... sphère, mais en même temps, il y a d'autres où on arrive à se débrouiller, c'est tout.
Et visiblement, il y a certaines sources d'informations qui font beaucoup plus confiance aux médias en exil.
Ben, l'ensemble du pays fait manifestement plus confiance aux médias en exil qu'aux médias au pays. Je vous rappelle l'enquête d'opinion qui avait été faite avant qu'on ne soit tous forcés à l'exil sur les médias qui suivaient les Burundais par ordre d'importance. C'était la RPA, je crois, Bonesha ou Isanganiro, et puis Renaissance. C'était les quatre médias les plus suivis, venaient après la BBC, la Voix de l'Amérique, et puis RFI. Aujourd'hui, ça s'est totalement inversé. Ce sont les stations internationales que les gens écoutent prioritairement, et puis viennent les stations locales. Donc, ça dit ce que ça dit.
Avez-vous été étonné de l'hospitalisation de Pierre Nkurunziza avant d'en arriver à son décès, Emmanuel Ndereyimana?
Rien ne nous a étonné parce que l'histoire du Covid-19 est quelque chose qui a commencé longtemps avant, je crois, depuis le mois de février, mais que les Burundais continuaient toujours, les autorités continuaient à nier.
Pratiquement depuis le mois de décembre.
Voilà, bon, ils continuaient à nier, les médias ont parlé, nous avons écrit, tout le monde rejetait en bloc ce que nous disions, nous traitait de petits menteurs. Alors, avec l'OTAN, on a entendu ici et là, à gauche, à droite, au Burundi, les gens qui mouraient comme des... voilà, exact. Mais le pouvoir continuait toujours à nier. Et après, il y a eu la période des élections. D'abord la campagne, où les gens étaient entremêlés comme des poissons dans une boîte de sardines, de conserve. Alors, vous comprenez qu'à ce moment-là, même ceux qui étaient un peu épargnés sont venus quand même. Et ils ont été contaminés, quel que soit. Peut-être ça dépend de l'organisme de chacun, la résistance et consort. Mais voir le président Nkurunziza hospitalisé, ce qui m'étonne est qu'il il a été hospitalisé officiellement seul. Alors qu'il y a d'autres, on apprend à gauche, à droite, parmi ces mêmes autorités, qui sont couchés sur les lits d'hôpitaux, mais en cachette. Mais on a toujours des nouvelles du pays.
Et vous voulez parler de citoyens lambda ou vous voulez parler de personnes proches de Nkurunziza?
Des personnes proches de Nkurunziza. Les citoyens lambda, mais ils meurent comme des mouches. Les proches de Nkurunziza, il y en a ceux qui sont hospitalisés jusqu'à aujourd'hui. La preuve, non seulement lui, sa femme a été évacuée d'urgence, la première dame à Nairobi. Vous comprenez alors que la présence du Covid-19 au Burundi n'est pas un tabou pour le moment, et jusqu'à ça, c'est arrivé à un point culminant, à nous enlever notre cher président. Voilà.
Et vous avez dit tout à l'heure, on niait l'existence du Covid, mais vous n'avez pas relevé que le président lui-même, Nkurunziza, était le premier à nier l'existence de ce virus.
Bien sûr, parce que lui, nous parlait des histoires un peu magiques, bizarres, en disant que c'est Dieu qui protège l'atmosphère burundaise, il n'y aura pas de Covid, ça n'existe pas. Mais le comble de malheur est que parmi les officiers les plus gradés, c'est lui qui s'emporte le premier, alors c'est dommage.
Et sans oublier cette image, peut-être qui nous revient, peut-être à tous, du 1er mai, où il tenait sa fille en lui disant « Toi, je peux te toucher, les autres ne font que mentir par rapport au... »
Tout ça, c'était se moquer du monde. Et c'est arrivé même à un moment où on a expulsé les représentants de l'OMS parce qu'ils n'émettaient pas sur les mêmes ondes par rapport à la gestion de la pandémie. Vous comprenez? Alors, le Covid-19 est une réalité au Burundi et la preuve en est que les gens en meurent et en mer toujours, jusqu'à aujourd'hui où je te parle.
Nkurunziza a été hospitalisé le samedi, il est mort 3 jours plus tard, et pendant tout ce temps, silence radio, que ce soit du côté de la présidence ou du côté du gouvernement. Quelle explication donnez-vous à ce silence innocent?
De son hospitalisation?
Non, de ce silence, le silence
à propos de quoi? À propos de quoi?
À propos de l'état de santé de Pierre Nkurunziza.
Bon, ça, c'est des choses
et
qui arrivent.
Et naturellement, c'est également lié au silence qui a accompagné
son décès.
Le départ de Denise Wuchumi.
Oui, cela arrive dans d'autres pays aussi, que le chef d'État puisse être souffrant sans qu'on le dise tout de suite au pays.
Sauf que c'était quand même particulier par rapport au contexte du Covid. Et puis, ce n'était pas les premiers à être touchés. On se souvient du Premier ministre britannique qui a communiqué d'heure en heure sur son état de santé, non, et même le gouvernement.
La question n'est pas là. La question n'est pas là, c'est que ils se sont enfermés dans... J'ai l'impression qu'ils ont fini par croire à leurs propres histoires qu'ils racontent sur le Covid, sur la protection divine qu'il y a sur le Burundi, sur le fait qu'eux ne peuvent pas toucher parce que Dieu les protège en particulier. Mais Dieu, si jamais pour les croyants, si Dieu existe, il existe pour tous les humains, c'est pas pour certains individus au Burundi seulement. Donc tous les autres qui sont morts, tous les autres qui sont sur cette terre, c'est comme si eux, Dieu ne s'en préoccupait pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont tombés malades, qui sont morts, etc. Ça n'a rien à voir avec la foi, cette histoire-là. C'est un virus. Le virus, les médecins nous disent comment s'en protéger, comment essayer de l'éviter. Et même quand on essaie, on peut l'attraper, en mourir. Et maintenant, nos autorités sont dans le déni total, comme ils l'ont toujours fait dans d'autres domaines, notamment la crise qui est dans le pays depuis 2015 et qui est toujours là, qui est intégrale. Il nie l'existence du Covid, il nie le risque lié au Covid. Il se promène, se fréquente, vive dans la plus grande promiscuité comme c'était avant, comme il était en train de le dire Emmanuel.
Avec notamment les rassemblements.
Les meetings électoraux, les messes, les matchs de foot, les mariages, tout se passe comme si...
Transport en commun.
Le sport, voilà.
Et puis... Et même ceux qui osent se protéger sont...
Ils sont tournés en dérision. Oui. Je ne sais pas s'ils sont emprisonnés, mais ils sont tournés en dérision tout au moins, parce que le président parlait d'Agaromera-Bounoua récemment encore.
Mais on a connu quand même certains témoignages de personnes qui portaient
le masque
et qui se sont fait attraper par
la police. Si le président de la République appelle le masque à Agaromera-Bounoua, ça veut dire que plus personne ne peut oser porter ça. C'est aussi simple que ça. Agaromera-Bounoua, ça veut dire scandale, machin. Enfin, c'est excessif. C'est le scandale suprême, Agaromera-Bounoua. Le jeu des mots sur Agafoukaounoua et Agaromera-Bounoua. Donc, à trois reprises, il a prononcé ce... Donc, c'est... Que ces gens disent ces choses-là et que finalement ils y croient, et pour finir par en être victimes. Mais on dirait qu'ils ne comprennent toujours pas, parce que ça veut dire que d'autres peuvent encore tomber, mais c'est proprement incompréhensible. Nous connaissons tous des gens qui sont morts du Covid. Il y a les deux collègues de la RTLB qui sont morts récemment. Il y a d'autres gens qu'on connaît, moi je parle de ce que
qui
je connais.
Sont, qui sont hospitalisés.
Non, il y en a qui sont morts, Emile Wenga, Gracie Bukwaya, et puis d'autres dans les quartiers, etc. Il y a des gens un peu... Et puis, c'est pas une maladie honteuse, bordel, comme s'il y avait... Excusez-moi, la grossièreté. Comme s'il y avait... Pardon. Pardon.
Ça va.
Comme s'il y avait... Il y a même pas de maladie honteuse, cela dit. Donc, une maladie, c'est une maladie. On fait ce qu'on peut pour l'éviter. Et on ne peut pas jouer avec la vie des gens comme ça, y compris avec la sienne. Moi, ce qui me paraît encore plus incroyable dans ce système-là, que le président puisse se tromper parce qu'il a des croyances, mais qu'il n'y ait personne au gouvernement, à l'Assemblée nationale, dans tous les services de sécurité, qu'ils soient capables de dire arrêtez un peu là, on va à la catastrophe.
On a vu même les candidats à la présidentielle qui n'osaient pas contredire.
Mais on ne peut pas comprendre que tout soit pourri à ce point dans le pays, au point où les gens font un truc aussi incroyable que nier l'existence du Covid et les risques que ça représente, et que ça se passe comme si de rien n'était. Les gens sont en train de mourir, tout le monde le voit, toute la région le voit, toute la communauté internationale le voit. De la même manière qu'ils voient les crimes qui se commettent sans que personne ne bronche, ça fait mal ce qui se passe chez nous, ça fait vraiment mal.
Pourquoi, selon vous, Emmanuel, pourquoi le gouvernement cacherait la vérité?
Non, il faut comprendre une chose. Quand c'est le président de la République lui-même qui ose venir devant la foule nier l'existence du Covid, après il y a naissance des fausses prophéties qui lui parlent qu'il sera président à vie éternellement, lui ne voyait pas alors par où viendra ce cauchemar de Covid-19. Il s'est laissé alors bercer son cerveau, s'est laissé bercer par des fausses prophéties éternelles, guides et tout. Et alors, quand il y a des prophéties qui parlent la même chose que le président, même s'il y a vraiment un proche collaborateur qui pouvait faire dire le contraire, ça serait vraiment contredire même ce Dieu, vous comprenez? Alors, ils ont resté enfermés dans un vase clos, et c'est là où est née la catastrophe.
Aussi bien, vous voulez dire aussi bien le président
bien sûr, que
tout le pouvoir, le gouvernement, etc.
Jusqu'à il y a des gens qui ne comprennent même pas qu'il soit mort, parce qu'ils savent qu'il est éternel. Les fausses prophéties l'ont annoncé tous les jours. Et il s'est laissé bercer par ces vautours autour de lui, les gens qui cherchent juste des miettes qui tombent sur la table. Et il s'est laissé véhiculer ces messages dans toute la population. C'était vraiment de la catastrophe. Alors voilà l'aboutissement. C'est quoi? Lui-même déjà, Il est parti, c'est dommage.
Et si finalement le gouvernement avait raison de ne pas trop ébruiter la pandémie pour ne pas effrayer la population, ne dit-on pas que la peur peut être pire que ce qu'il a causé?
Non,
on se souvient.
Il y avait notre raison.
On a des exemples, notamment de la Suède ou des Pays-Bas, qui ont dit mais on va laisser
les gens être
contaminés et c'est comme ça, c'est ce qui pourra nous sauver. Est-ce que ça ne pourrait pas être dans la même philosophie?
Écoute, il faut pas comparer l'incomparable. Il y avait une autre raison. C'était des raisons politiques. Parce qu'on préparait des élections. Il fallait à tout prix embarquer tous ces gens dans les meetings. En parlant des mesures qu'il faut prendre contre le Covid, ça allait tout simplement aboutir à dire aux gens de rester chez eux, confinement et qu'on sort. Alors qu'ils devaient à tout prix arriver aux élections, triquer et tout, proclamer leurs candidats et qu'on sort.
Mais les élections sont terminées, le langage n'a pas changé.
Voilà, ça n'a pas changé. Alors, ils reviennent où? Tu me parles de la Suède, je ne sais pas de quel pays. Ces pays, ils ont pris des mesures strictes. Ils n'ont pas confiné la population, c'est vrai. Mais
ils n'ont pas empêché aux gens de se protéger.
Ils ont demandé à la population la distanciation. Et c'est respecté à la lettre. Et il ne faut pas comparer alors les gens qui ont pris une certaine façon de se protéger avec les gens qui n'ont rien vraiment pensé de tout cela. Vous comprenez? Ce n'est pas la même chose alors, à la fin. Vous comprenez pourquoi chez nous c'est la catastrophe, que chez les autres, quand même, ça va.
Je rappelle que vous suivez l'émission Club de la Presse, émission produite en synergie par la télévision Renaissance et les radios RPA et Nzamba. Aujourd'hui, nous parlons de la mort du président Pierre Nkurunziza et des interrogations qui ont accompagné sa disparition. Emmanuel Ndereyimana, qui est le chargé de la communication de la plateforme Sefort Arusha, est l'un de nos invités. Nous sommes également avec Innocent Mozi, directeur de la télévision Renaissance, qui sont sur ce plateau pour débattre du sujet. Innocent, que peuvent être les conséquences de ce déni, en commençant par l'entourage direct de Pierre Nkurunziza?
Non, les conséquences, c'est les morts tous les jours qu'il y a au pays. C'est les morts qui sont là tous les jours.
On a parlé notamment de l'évacuation de la maman de Pierre Nkurunziza hier matin dans une structure.
Je ne veux pas aller dans les spéculations sur tel ou tel autre cas, parce qu'il y a tellement de choses qui circulent, il faut rester très prudent. Mais même en parlant simplement de citoyens ordinaires, le nombre de gens qui sont en train de mourir, nous voyons tous les nouvelles, nous les avons. Mais pire encore, maintenant aussi au niveau du sommet de l'État, puisque c'est de cela que vous parlez, que le président ait été atteint, que son épouse ait été atteinte, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres qui sont atteints aussi. Donc ça dépasse l'entendement tout simplement. Mais on parle de gouvernement, de gouvernants, mais
on peut parler de suicide.
En réalité, ce pays n'est pas gouverné depuis très longtemps. Il n'est pas gouverné, ce qui se passe chez nous ne serait pas toléré dans aucun autre pays au monde, à mon avis.
Vous voulez parler d'un comportement suicidaire de la part du sommet?
Totalement irresponsable, totalement irresponsable. Les gens sont enfermés, je ne sais dans quoi. C'est des choses difficiles à qualifier parce que c'est vraiment unique. Bon, il y a quelques proximités, quelques ressemblances avec ce qui se passe en Tanzanie. Quand on voit certaines personnalités publiques tanzaniennes, ce qu'ils racontent, on croirait entendre les gens de chez nous, mais bon. Il y a quelques différences quand même, mais ce qui se passe chez nous dépasse l'entendement.
Et donc, vous craignez qu'aujourd'hui, demain, après-demain, on puisse encore annoncer d'autres morts dans l'entourage direct?
Vous savez, si ça concernait ceux qui décident et qui décident mal, ça, à la limite, c'est leur problème. Mais le problème, c'est que ça concerne tout le pays.
Non, toute la population.
Oui, si les conséquences ne portaient que sur ceux qui prennent ces décisions, à la limite, on dirait, ok, ils sont victimes de leurs décisions, mais tous les autres, maintenant, tout le pays qui est censé être gouverné par ces gens.
Emmanuel, on est en train de parler des conséquences de ce comportement, de ce déni, de cette attitude que Innocent Mozi est en train de traiter pratiquement de suicidaire, de criminel de la part du pouvoir. Qu'en est-il des relations entre la population et le pouvoir dans ce contexte de déni et de mensonge, comme vous êtes en train de le dire vous-même?
Vous savez, c'est difficile quand le peuple est embarqué sur une pente un peu difficile. Ils font avec, mais avec beaucoup de regrets, parce que nous parlons avec l'une ou l'autre personne au pays. Vous comprenez? Si tu vois, par exemple, le communiqué qui est sorti hier du gouvernement, qui dit à tout le monde que ne dansez pas, ne faites pas de la musique, mais allez au bar, où vous pouvez vous entasser comme vous voulez, vous contaminer comme vous voulez, mmh. mais seulement ne faites pas la musique. Mmh. Allez à la messe, faites des cérémonies de mariage, mmh. tout ce qui est possible pour vous rencontrer en masse et vous contaminer davantage, mmh. allez-y. Mmh. Vous ne trouvez pas que ça, c'est suicidaire vraiment? Ça veut dire que, comme vous êtes en train de le dire là, comme le directeur l'a dit, il y a absence d'autorité. Vous comprenez? Parce que il est vrai, il donne des ordres, mais sans mesurer les conséquences.
Je parlais de conséquences en rapport avec les relations entre la population et le pouvoir. On a parlé d'un taux élevé de participation aux élections, avec un futur président qui a été élu à plus de 68% des voix. S'agirait-il aujourd'hui d'un véritable amour? Où il pourrait y avoir un certain désamour lié à ce déni et à ce mensonge qui fait des victimes, qui font des victimes également dans la population.
Essayez de regarder une seule image qui peut te donner la réponse de tout ça. Ils sont participés massivement, c'est vrai, aux élections. Ils ont voté contraire de ce que le pouvoir a proclamé. Vous comprenez? Alors, le peuple, leur candidat n'a pas été proclamé vainqueur. C'est pourquoi tout ce qui se passe au pays, malgré le président, la mort du président, ils font comme s'ils ne sont pas là. Ça veut dire qu'il y a cassure entre les dirigeants et les dirigés. Donc le peuple se dit, bon, c'est toujours la même chose. Ils ne suivent rien en paix de mort. Mm-hmm. Vous comprenez? Les autorités là-bas vont sortir des communiqués, mais eux, ils ne sont pas là. Ils sont absents. Pourquoi? Parce que... Toi-même, tu vois, ils sont partis aux élections, ils ont voté, mais leur candidat a été refusé. Alors, la cassure est née désormais jusque-là. Vous comprenez alors que jusque-là, on ne peut pas dire qu'il y a amour entre dirigeants et dirigeants. C'est vraiment... le divorce est prononcé.
Mm-hmm. Voilà. Innocent, quelle leçon peut-on tirer de la mort de Pierre Nkurunziza? Mais également, naturellement, avant de tirer des leçons de la mort de Nkurunziza, d'abord de son pouvoir.
Bon, sa mort, c'est malheureux qu'on pousse l'inconscience ou l'irresponsabilité à ce point. Il est victime de décisions insensées qui sont prises par son gouvernement. Ça dépasse l'entendement. Ça dépasse il aurait pu être encore en vie s'il avait pris les mesures que tous les autres pays du monde prennent. Aussi simple que ça. C'est incroyable. Ces gens qui prétendent l'aimer, qui prétendent pleurer, ne l'aimaient vraiment pas du tout. Parce qu'ils n'auraient pas laissé les choses se faire comme elles ont été faites si vraiment ils aimaient ce président. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans ça. Ils n'aiment pas le Pierre Nkurunziza, les gens qui menace les autres en disant c'est lui qui fait la fête, machin. Mais ces gens n'aiment pas le président, c'est tout. Ils profitaient de ces errements comme de ce système. Sinon, ils auraient pu dire ça ne peut pas se faire. Et ils seraient encore en vie. Ça, c'est vraiment une chose qui me paraît évidente. Il y avait un autre aspect, c'était quoi?
Oui, c'était quelle leçon est-ce qu'on peut tirer de son pouvoir?
Ben la leçon est très simple, c'est ce qui a été fait pendant les 15 ans au Burundi, c'est exactement ce qu'il ne faut surtout pas faire dans ce pays-là ou dans un autre pays. On ne peut pas gouverner par la terreur au XXIe siècle, on ne peut pas gouverner par le meurtre, par les disparitions forcées, par les emprisonnements des milliers de jeunes gens parce qu'ils expriment leur opinion, par les viols massifs des femmes, par l'impunité totale, par la cruauté qui pousse des centaines de milliers de ses concitoyens à l'exil, par l'enfermement des gens pour qu'ils expriment pas leurs idées pour construire leur pays, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire.
Pourtant, il a amené la gratuité de l'enseignement primaire, la gratuité des soins pour les femmes enceintes et les femmes qui accouchent et pour les enfants de moins de 5 ans. Est-ce qu'au moins, on ne pourrait pas le retenir pour certains de ces aspects qui pourraient paraître...
Ça a été de la démagogie plate. Parce que vous prenez, nous savons tous que la santé ça a un coût, nous savons tous que l'enseignement ça a un coût. Si vous prenez ces mesures-là, vous prévoyez comment financer cela. Vous ne pouvez pas prendre ces mesures sans prévoir comment financer cela.
Donc, les mesures d'accompagnement.
Mais le résultat, ça a été la catastrophe. Les hôpitaux sont dans un état de délabrement sans nom. Les écoles primaires notamment, vous voyez très bien que les enfants apprennent en étant assis par terre. Donc c'est ces choses-là, à la limite, ça a été de la démagogie. Ce monsieur pouvait paraître sympa sur certains aspects, mais sa politique a été un désastre pour le pays. Qu'est-ce qu'on retiendra de son règne, de son règne, c'est vraiment la destruction du contrat social que le Burundi avait pu atteindre au terme d'une guerre de plus de pratiquement 10 ans. Ça s'appelait l'accord d'Arusha, avec ses défauts, avec ses faiblesses, qui pouvaient s'améliorer. Ça a été son règne, ça a été la destruction méthodique du consensus que le Burundi avait pu atteindre pendant toute cette période de négociation qui a duré 3 ou je ne sais pas combien d'années. Et le résultat, regardez, on en est le pays le plus pauvre au monde.
Pour Mouazi, le tableau est complètement sombre. Et d'ailleurs, ce que
il n'est pas sombre, il est noir.
Il est noir.
Quand c'est sombre, ça va encore, c'est plutôt noir.
C'est que vous disiez vous-même, ce n'était pas aussi beau que ça. Mais est-il encore possible de se rattraper pour une meilleure gestion du Covid, pour ne parler que du Covid, avant de revenir sur le général Emmanuel?
Oui, on peut toujours faire quelque chose si maintenant on prend les mesures dès maintenant, parce que demain ça sera trop tard. Si tout ce qu'on devait faire, on n'a pas fait avant. Alors maintenant, là, à la minute où nous sommes, ils peuvent vraiment faire comme d'autres, prendre des mesures qu'il faut pour son peuple, afin de sauver quand même certains parmi eux. Parce que ils doivent comprendre que même eux, les autorités, ne sont pas épargnés.
Ils ont la preuve avec.
Et puis, les nouvelles autorités, il faut qu'ils évitent de se faire entourer des faucons, des vautours qui étaient autour de Nkurunziza. Il faut renouveler tout ce clic. Les gens qui viennent chanter à tes oreilles juste pour te faire bercer, il faut t'éloigner de ces gens. Il faut des gens qui viennent te parler de la vérité, même si cette vérité te fait mal, mais que ça apporte du bien pour la nation. Il faut des gens comme ça. Alors, c'est ce que je souhaite aux nouvelles autorités, et qu'ils, finalement, ils quittent l'ombre du... Je ne sais pas où ils étaient, dans quel genre de rêve du bonheur, alors qu'ils pataugeaient dans le malheur avec tout le pays, qu'ils reviennent sur la table des négociations, parler avec les opposants, ramener sur la table les accords d'Arusha, revoir ce que ça raconte.
Vous ne craignez pas que ça ne soit pas le cas, étant donné que l'élu pour être président a dit lui-même qu'il va perpétuer l'héritage de Pierre Nkurunziza.
L'héritage de Pierre Nkurunziza, c'était la catastrophe, vous comprenez, dès le début jusqu'à la fin. Vous pouvez compter vous-même les morts qui sont enregistrés sur le pouvoir de Nkurunziza.
Mozi a dit tout ça, mais malgré tout, malgré ce langage pendant du vivant de Nkurunziza, vous espérez qu'il peut-être changer et agir autrement.
Oui, l'homme change, vous comprenez. Il ne peut pas rester dans le négatif, parce que lui-même comprend. S'il fait faux pas, sans prendre des mesures, par exemple, pour le Covid, qui lui dit qu'il sera épargné, qui lui dit que ce n'est pas son tour demain. Mais pourtant, s'il fait comme d'autres font partout dans le monde, il épargne et la population et lui-même. C'est ce qu'on souhaite pour cette nation. Les nouvelles autorités avec de nouvelles méthodes pour changer exactement, faire le contraire de ce que son prédécesseur faisait.
Il y a quand même de l'espoir du côté d'Emmanuel Ndereimana. On s'achemine vers la fin de cette édition. Innocent, le pouvoir de Nkurunziza, vous l'avez dit, il était souvent accusé, il a été accusé de tas de crimes, dont des crimes contre l'humanité, avec sa disparition. Est-ce une page qui se tourne sur cet aspect?
Je ne crois pas, parce que c'est la même équipe qui reste au pouvoir. C'est les mêmes acteurs qui restent là. Le problème n'était pas spécifiquement Nkurunziza, c'était tout le système qui pense, qui agit comme cela. Et tant que c'est ces mêmes individus qui restent là, qui viennent de voler de manière éclatante les résultats des élections, tout le monde a vu que le pays est sorti massivement pour dire qu'il en a assez de ce gouvernement et de ces gens, et que malgré cela, ils ont gardé le pouvoir. Je ne vois pas ceux qui ont commis ces crimes de façon massive hier changer aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Ils vont continuer leur fuite en avant. Je ne sais pas si le président qui a été imposé par ce même groupe aura la capacité de s'en dégager, de faire autre chose.
Et si c'était possible?
Ben, on verra. Ce sera tant mieux pour le pays. Je ne crois pas beaucoup.
Merci beaucoup. Il y a de l'espoir, il y a du désespoir.
Non, je n'ai pas dit qu'il y a de l'espoir. Moi, je n'ai pas dit qu'il y a de l'espoir.
Ce n'est pas un espoir comme tel. Ce sont juste des souhaits.
Voilà. Merci beaucoup. Et donc, merci beaucoup. C'est par donc, ces termes, ces souhaits que vous venez tous les deux de dénoncer que se termine cette édition du Club de la Presse. Merci donc à nos invités, à Innocent Mozi et Emmanuel Ndereimana. Merci également à toute l'équipe technique, à toutes, à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.
Club de la Presse, une émission produite en synergie par 3 médias, la radio publique africaine, la radio Indamba et la radio-télévision Renaissance.
Le Club de la Presse offre aux professionnels des médias et aux invités un espace de débat et d'analyse des nouvelles nationales et régionales.
Cette émission est aussi un cadre d'expression à l'autocritique et à une analyse sans complaisance du travail des journalistes burundais.
Retrouvez le Club de la Presse tous les vendredis sur le www.rpa.bi ou sur le www.nzamba.org et sur la page YouTube de la Télévision Renaissance.